Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Au micro, Blaise Chindani Kambala. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Au Nord Kivu, une vingtaine d'écoles primaires et secondaires du groupement de Malio en chefferie des Bachou ont cessé de fonctionner. Et pour cause, les attaques des rebelles ADF dans les villages environnants à la limite avec les territoires voisins de Lubero. Ceci a occasionné les déplacements de nombreux parents ainsi que leurs enfants. Le 6 février, c'est la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. À cette occasion, la Fondation Biester appelle à une mobilisation réelle de tous pour protéger les femmes et les jeunes filles dans l'est du pays contre cette pratique dans un contexte d'insécurité. Notre invité est Emango Chimanga, expert en santé sexuelle et reproductive au Kasaï Central. Il s'entretient avec André Katinde Ngalamouloumé en marge de la journée internationale contre la mutilation génitale féminine célébrée chaque 6 février. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au Nord Kivu, une vingtaine d'écoles primaires et secondaires du groupement de Malio en chefferie des Bachou ont cessé de fonctionner. Et pour cause, les attaques de rebelles ADF dans les villages environnants à la limite avec les territoires voisins de Lubero. Les parents et leurs enfants se sont déplacés, certains vers Boutoué, chef-lieu du groupement des Mouéniens, et d'autres vers la ville de Butembo. La société civile appelle les autorités militaires et scolaires à tout mettre en œuvre pour que les élèves ne ratent pas l'année scolaire. Maombi Kaongia, président de la société civile dans la chefferie des Bachou, explique au téléphone de Marc Marofimbo.
Ça fait une semaine et demie que 15 écoles primaires et 8 écoles secondaires sont fermées et les activités suspendues. Agroupement Malio, chefferie des Bachou, territoire de Beni, au Nord Kivu. Les écoles primaires et secondaires des villages Burundo, Kisesandondi, Kivira, Kisungu-Vulera et Kiondo-Kitumbu restent fermées et les activités suspendues suite aux différentes attaques des terroristes ADF Nalu, agroupement Mouenye et à une partie du village vous rendez au groupement Malio dans les territoires de Beni. La société civile Force Vive, noyau de la chefferie de Bachou, alerte le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités pour le retour de la paix dans les zones affectées par les activistes et les terroristes des ADF Nalu, mais aussi aux autorités scolaires de prendre les mesures nécessaires pour garantir une fin favorable des activités scolaires et surtout quand nous sommes à la période des examens du premier semestre au niveau des secondaires.
Nous n'avons pas réussi à obtenir les réactions des autorités administratives et militaires à ce sujet. Noquez-vous toujours, des centaines de personnes, en majorité des jeunes, sont de plus en plus menacées par l'opération des traques menées contre les Wazalendo et les présumés FDLR. Cette situation touche particulièrement le groupement des Bambo et des environs dans la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru. Selon un notable local, cette opération menée par l'AFCM 23 intervient après un bouclage survenu le 31 janvier dernier autour des Bambo Centre. À l'issue de cette action, près de 300 personnes avaient été enlevées par ce mouvement rebelle. Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambo, actuellement en déplacement, exprime une profonde inquiétude face à cette situation. Il appelle à une implication urgente du gouvernement congolais et de ses partenaires pour garantir la sécurité des civils. Écoutons ici sa réaction.
Depuis l'enlèvement de plus de 300 personnes par le M23 le 31 janvier 2026, les jeunes qui sont restés préfèrent se cacher en brousse, alors la quasi-totalité de ces jeunes, en tout cas leur sécurité, est en danger parce que la brousse, c'est là où les M23 encore sont en train de mener des opérations contre les FDLR et les Wazalendo. Nous craignons encore des massacres de la population parce que le M23 qui pouvait sécuriser cette population, c'est eux-mêmes qui inquiètent encore la population. Et c'est là en violation grave des droits internationaux et humanitaires. Alors nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir mobiliser en tout cas ses partenaires internationaux et régionaux et voir comment cette population de Rutshuru et voir comment ils peuvent être sécurisés. Que le gouvernement ne se contente pas avec les papiers là où ils ont signé des accords, mais de la sécurisation de sa population par tous les moyens.
D'autres organisations de défense des droits humains rapportent qu'après plusieurs attaques attribuées au Wazalendo, l'AFC M23 a mené hier mercredi un nouveau bouclage similaire dans la localité de Kituva, en chefferie de Baoundé, territoire voisin de Masisi. Plusieurs dizaines de jeunes auraient également été amenés vers une destination inconnue, accentuant les inquiétudes sur la sécurité des civils dans ces zones sous occupation. L'Assemblée provinciale de la Tchopo fustige la déclaration publique de Corneille Nanga au lendemain de la tentative de bombardement de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka, les 31 janvier et le 1er février. Cette condamnation est contenue dans un communiqué de presse du 4 février courant émis par la cellule de communication de l'organe délibérant provincial. Le point avec Élise Kavira.
D'après ses communiqués, assumer ces actes terroristes revient à dire que Corneille Nanga s'inscrit dans la dynamique de la rébellion au service des intérêts du Rwanda. La Chambre des représentants le met en garde contre toute menace ou toute action contre la province. Aucune tentative d'instrumentalisation ou d'intimidation ne saurait être tolérée, peut-on lire dans ce communiqué de presse. Par ailleurs, l'Assemblée provinciale rend hommage aux FARDC et les appelle à la vigilance afin de neutraliser toutes les forces négatives opérant sur l'ensemble du territoire. Elle exhorte également la population à coopérer avec les forces de sécurité afin de déjouer toute manœuvre des ennemis de la paix. Enfin, l'organe délibérant plaide auprès des autorités pour le renforcement des mesures de sécurité autour des sites stratégiques, notamment les camps militaires, l'aéroport et le port, afin de prévenir toute tentative de déstabilisation.
Ce 6 février, c'est la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines, instaurée par l'ONU pour sensibiliser le monde entier aux dangers de cette pratique et mobiliser gouvernements, organisations, communautés et familles pour son élimination. À cette occasion, la Fondation Biester, engagée dans l'autonomisation économique des femmes, l'accompagnement psychosocial et la promotion de leurs droits au Nord Kivu, appelle à une mobilisation réelle de tous pour protéger les femmes et les jeunes filles dans l'est du pays contre cette pratique dans un contexte d'insécurité. Sa directrice, Mignon Zaina Chaupanda, insiste également sur la nécessité pour les victimes de briser les silences. Elle s'exprime au téléphone de Martial Papimukeba.
Les mutilations génitales féminines sont une violence inacceptable. Leurs conséquences sont graves. Douleurs intenses, complications à long terme, difficultés lors des accouchements, traumatismes psychologiques et atteintes irréversibles au bien-être et à la vie de filles. Dans le contexte de l'insécurité au nord et au sud Kivu, le risque que ces pratiques continuent ou s'aggravent est réel. Les déplacements forcés, la pauvreté, la déscolarisation de filles et l'affaiblissement des mécanismes de protection exposent encore davantage les enfants à des violences souvent perpétrées dans les silences. Les mutilations génitales féminines sont interdites par la loi congolaise et une violation grave des droits humains. Nous lançons un appel solennel à tous. Dites non à ces pratiques et engagez-vous activement pour leur disparition. Toutes les victimes doivent également dénoncer ces violences car chaque signalement est une chance de sauver une vie et de protéger l'avenir d'une fille.
Comme dit tout à l'heure, le 6 février de chaque année, le monde célèbre la journée internationale contre les mutilations génitales, qui sont des pratiques observées dans certaines cultures qui consistent à enlever partiellement ou totalement les organes génitaux externes d'une fille ou d'une femme ou à les blesser sans raison médicale. En rapport avec cette journée, Emango Chimanga, expert en santé sexuelle et reproductive du programme de la santé sexuelle et de la reproduction au Kasaï central, indique que cela apporte des conséquences à ceux qui la pratiquent. Parmi ces conséquences, il cite des complications sur l'appareil génital, les conséquences psychologiques et gynécologiques. Il parle de ces conséquences au micro d'André Katendengala Moulomé.
Il y a les conséquences à court terme et les conséquences à long terme. Les conséquences à court terme, d'abord, la première chose, c'est la douleur. Quand on le fait, surtout traditionnellement, on le fait sans anesthésie, et ce qui donne beaucoup de douleur après cette intervention. On peut aussi assister à des saignements qui sont abondants, qui peuvent aboutir même à un décès. D'autres conséquences aussi, ça peut être le gonflement des organes génitaux, et on peut aussi assister à des infections génitales, à des problèmes urinaires. Les conséquences à long terme, la femme peut continuer à uriner avec beaucoup de douleur. On peut aussi assister à une cicatrice qui ne peut pas bien fermer l'orifice vaginal, ce qui peut aboutir à un accouchement difficile, mutilation génitale. On peut aussi avoir les règles qui sont pratiquement difficiles. On peut aussi assister à des problèmes psychologiques chez la femme.
Sentez encore les cas de rougeole augmente du jour au jour dans la zone de santé d'Idjoui, dans le territoire du même nom. La cible principale, ce sont les enfants de 0 à 5 ans identifiés dans les aires de santé. Pour faire face à cette maladie, la division provinciale de la santé renforce la vaccination autour des enfants, indique le médecin chef de zone de santé d'Idjoui. Docteur Emen Kemba apaise les parents dont les enfants présentent des signes de la rougeole. On l'écoute au micro de Jean Kassami.
Effectivement, nous confirmons qu'il y a une augmentation des cas de rougeole dans les aires de santé. Nous avons déjà alerté la province et il y a déjà ceux qui se préparent pour nous aider à riposter ou à renforcer la vaccination autour des enfants et voir comment nous pouvons prendre en charge d'une manière permanente ces cas de rougeole. Et donc l'alerte que vous avez reçue, c'est vraiment une alerte confirmée. Nous avons des rapports, si vous exploitez nos rapports hebdomadaires, vous verrez que les cas de rougeole ne font qu'accroître. Donc il y a une augmentation et c'est comme ça que la communauté se plaint déjà par rapport à cette situation. Mais nous sommes en train de nous démener avec la division provinciale de la santé et certains partenaires comme l'UNICEF pour voir comment nous pouvons arrêter la transmission de cette maladie au sein de la communauté.
En Mbandaka, le gouverneur de province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, a procédé le mardi 3 février au lancement officiel d'un vaste chantier de génie civil. Le projet porte sur la construction des 70 ponts et d'alos en béton armé le long des axes RN8 et RN21. Initié par le ministère national des infrastructures et travaux publics, il vise principalement à désenclaver les territoires d'Ingende et de Bikoro. La cérémonie officielle s'est tenue à Bolenge, localité située à 9 km au centre-ville de Mbandaka. Des détails avec Asken Zigbia.
Les travaux concernent les tronçons reliant le village de Bolafa au territoire d'Ingende, incluant la localité de Kalamba sur la route nationale numéro 8. Le projet couvre également la section entre Kalamba et Bikoro sur la route nationale numéro 21. Ces nouvelles infrastructures permettront de sécuriser et de fluidifier la circulation sur ces axes routiers stratégiques pour la province. D'une durée prévisionnelle de 18 mois, les travaux seront exécutés par l'entreprise locale Tous pour la construction de l'Équateur TCE, et cela sous la supervision technique de l'Office des routes. Le financement provient du Fonds national d'entretien routier FONER. Pour Henri Elongolia, directeur de TCE, ce projet répond à une mission claire, désenclaver les territoires de Bikoro et d'Ingende en facilitant la circulation des personnes et des produits agricoles vers Mbandaka, chef-lieu de la province. Du côté des financeurs, Dadi Panga, directeur provincial du FONER, la réalisation de ces ouvrages devra promouvoir le développement local en améliorant l'accès au marché et en stimulant les activités économiques.
Revenons à Kinshasa avant d'aller plus loin. Hormis les rapprochements géographiques, Kinshasa et Brazzaville s'accordent désormais sur un régime fiscal particulier. Des experts des deux rives ont validé ce jeudi à Kinshasa l'accord bilatéral portant sur l'application de ce régime qui sera mis en œuvre lors de la gestion du pont route-rail reliant les deux capitales. La rencontre a été clôturée par les directeurs généraux de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, point focal du projet pour la RDC. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Pour rédiger cet accord, les experts des deux pays ont travaillé intensivement pendant 4 jours dans les locaux de l'Agence congolaise des grands travaux à Kinshasa. Ces assises techniques officiellement lancées marquent une nouvelle étape vers la concrétisation de ces projets stratégiques, estime la chef de la délégation de Brazzaville, Kadi Elisabeth Ndala.
Aujourd'hui, nous avons un régime fiscal et douanier harmonisé pour ce projet. Nous avons également un accord bilatéral qui vient consacrer ce régime fiscal et douanier pour nous permettre dans les prochains jours de relancer la demande de proposition en ce qui concerne le projet Pont Route Rail sur le fleuve.
De son côté, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux salue l'importance du pas franchi dans l'achèvement du projet Route Rail Kinshasa-Brazzaville. Nico Nzaou Nzaou.
Franchement, c'est la première fois que je vois un tel engagement de plusieurs structures qui travaillent en commun accord pour arriver à aboutir un travail qu'on peut présenter aujourd'hui devant les deux chefs d'État.
Le projet du pont rail Kinshasa-Brazzaville vise à renforcer l'intégration économique entre les deux Congo, stimuler les échanges commerciaux et ouvrir les deux États au reste du continent africain.
Actualité internationale.
Le témoignage d'Eric Nzaimiyamana, rescapé du génocide Tutsi, était au cœur du procès du franco-rwandais Claude Muhayimana à Paris ce jeudi 5 février 2026. Employé à la mairie de Rouen, condamné en première instance à 14 ans de prison pour complicité de terrorisme et crimes contre l'humanité, Claude Muhayimana est accusé d'avoir conduit des miliciens interamouins génocidaires sur les lieux de massacre sur les collines de Kibouye, Gitesi et Bisesero. C'est là, à Bisesero, que vivait Eric Nzabiyimana en 1994.
L'invité.
L'invité du journal est Emango Chimanga, expert en santé sexuelle et reproductive du programme de la santé sexuelle et de la reproduction du Kasaï central. Il s'entretient avec André Katinde Ngala Mouloumé en marge de la journée internationale contre la mutilation génitale féminine célébrée chaque 6 février. Suivez leur entretien.
Emango Chimanga, bonjour.
Bonjour, monsieur André.
Le 6 février de chaque année, l'on célèbre la journée internationale des luttes contre les mutilations génitales féminines. D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on entend par mutilation féminine?
Les mutilations féminines ou mutilations sexuelles, c'est une intervention qui se fait au niveau des organes génitaux chez les femmes sans raison médicale. Et il peut s'agir d'une ablation partielle ou totale des organes génitaux chez les femmes. Et ça peut être dû à une culture quelconque, mais sans une raison qui est purement médicale.
Si on peut bien comprendre, en médecine, on peut aussi admettre la mutilation. Et quand?
En médecine, c'est une pratique, je dis bien, qui n'est pas vraiment acceptée parce que ça a des conséquences néfastes chez les gens qui subissent cette mutilation sexuelle.
Vous venez de dire que la mutilation féminine a des conséquences chez celles qui la subissent. Quelles sont-elles?
Il y a les conséquences à court terme et les conséquences à long terme. Les conséquences à court terme, d'abord, la première chose, c'est la douleur. Vous le savez, quand on le fait, surtout traditionnellement, on le fait sans anesthésie, et ce qui donne beaucoup de douleur après cette intervention. On peut aussi assister à des saignements qui sont abondants ou des hémorragies qui peuvent aboutir même à un décès. D'autres conséquences aussi qui sont précoces, ça peut être le gonflement des organes génitaux qui peuvent arriver, et on peut aussi assister à des infections génitales, à des problèmes urinaires. La femme peut avoir mal à uriner, ce que nous appelons la dysurie. Les conséquences à long terme, la femme peut continuer à faire des urines, donc à uriner avec beaucoup de douleur. Avec la mutilation génitale, on peut aussi assister à une cicatrice qui ne peut pas bien fermer l'orifice vaginal, ce qui peut aboutir à un accouchement difficile chez une femme qui a subi de mutilation génitale. On peut aussi y avoir les règles qui sont pratiquement difficiles. On peut aussi assister à des problèmes psychologiques chez la femme. On peut voir une femme qui manifeste une anxiété ou une dépression. Elle peut aussi avoir une faible estime de soi. C'est sans ne pas être comme toute autre femme, parce que cette ablation, il peut arriver qu'on puisse vraiment intervenir au niveau des petites lèvres. Il y a aussi ceux qui font l'intervention au niveau des clitoris. Avec ça, la femme, sur le plan psychologique, peut se voir vraiment dans un état de faiblesse.
Quel message vous lancez à toute personne ou toute communauté qui pratique la mutilation féminine?
Avant de donner les conseils, la mutilation génitale chez la femme est aussi considérée comme une sorte de violence, violence faite aux femmes. Donc, c'est quelque chose qui est punissable même par la loi. Pour ce fait, nous devons demander à la communauté, surtout aux jeunes filles, parce que la mutilation génitale est souvent observée au bas âge, hein, surtout avant 15 ans chez les filles, ce qui fait que les filles peuvent grandir avec cette pathologie-là. Alors, ce que je peux demander à la communauté, eux, qu'ils doivent considérer la mutilation génitale comme une violence. Ainsi, on doit catégoriquement dire non, comme on dit stop à la violence, on peut aussi dire non ou stop à la mutilation génitale féminine. Donc, nous demandons aux jeunes femmes de ne pas céder. Il y a des mutilations qui se font non seulement l'ablation de la glande ou des petites lèvres, il y a aussi les femmes qui cherchent à prendre des produits pour rétrécir la voie génitale. Et ça a aussi des conséquences. Surtout les grands-mères qui pratiquement demandent aux jeunes filles d'introduire, par exemple, les médicaments indigènes. Donc, on doit dénoncer parce que ça amène à des conséquences que nous venons de citer.
Monsieur Imango Chimanga, nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'était notre invité Imango Chimanga. Il s'entretenait avec André Katende Ngalamolome. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal Parler de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Richard Junior Kamunga et mise en onde par Jean-Claude Nsialamonama Kengontsoalo. Ce journal est disponible sur notre site internet www.radiokapi.net.